Bonjour et bienvenue sur le podcast S'ouvrir à soi, le podcast qui explore les chemins de la transformation intérieure à travers le yoga, la philosophie ancestrale des textes indiens et aussi le design humain et les clés génétiques. Je m'appelle Céline, je suis aujourd'hui professeure de yoga et coach également, ou analyste on pourrait dire, en design humain et en clés génétiques. Je voulais vous expliquer comment j'en étais arrivée à ça et quel lien j'avais pu créer entre toutes ces choses aujourd'hui avec mes recherches, mes interrogations, mon humanité tout simplement. Je voulais vous dire que depuis toujours en fait je me pose beaucoup de questions. J'ai eu l'impression vraiment de me sentir seule des fois à me poser toutes ces questions, à me demander pourquoi on essaie tous dans des familles différentes, que peut-être ma voisine juste dans la rue avait une vie totalement différente de la mienne, des parents différents, une situation de famille différente. Et pourquoi aussi certaines personnes, en effet, vivaient des choses vraiment très très difficiles, des épreuves dont j'aurais moi peut-être du mal à me relever, et que d'autres, au contraire, semblaient avoir une vie hyper légère, hyper, hyper facile. Et puis peut-être se poser beaucoup moins de questions que moi et que ça faisait que c'était plus simple. Et en fait, toutes ces interrogations m'ont menée sur mon chemin. J'ai d'abord démarré par être esthéticienne, par le corps, à prendre soin, à toucher, à écouter les gens. En fait, au bout d'un moment, j'ai ressenti des choses un peu en touchant les gens, etc. Alors, je ne savais pas si c'était mon intuition, si c'était l'autre à travers sa vibration, peut-être qui me révélait certaines choses de lui ou pas. Mais bon, j'ai du coup continué mon chemin pour essayer d'aller plus loin, parce qu'il y a eu en même temps des phases d'éveil ou de compréhension à côté dans ma vie. Et du coup, j'ai continué mon chemin, j'ai fait 2 ans d'études de médecine chinoise pour aller un peu plus voir dans l'énergétique déjà ancestrale, parce que j'aime bien les choses qui sont là depuis des années et des années et qui ont fait, entre guillemets, leurs preuves, des preuves de guérison différentes de nos systèmes bien classiques, de bobologie, d'aller voir le médecin que quand on a mal. Je trouvais que la médecine chinoise, ça m'apportait ce côté où on prend soin avant que ça aille mal. On régule les énergies dans le corps. Et en fait, la médecine chinoise ne m'a pas apporté toutes les réponses que je voulais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué et j'ai fait 2 ans de sophrologie pour aller un peu plus étudier, on va dire, l'homme, la femme, la conscience, qu'est-ce qui se passe là-dedans, pourquoi certaines personnes arrivent à se poser, à être dans les résiliences, alors que d'autres personnes restent dans la victimisation. Je voulais vraiment essayer de comprendre. Et cette sophrologie m'a apporté beaucoup déjà pour moi et j'ai commencé à donner quelques séances à différentes personnes. Et en fait, ce qui m'a manqué, c'est le côté être acteur de sa guérison. Et c'est vrai qu'en parallèle de tout ça, dans mon métier d'esthéticienne, je m'étais formée dans pas mal de soins énergétiques. Je me suis formée en Reiki, je me suis formée dans certains soins de bioénergie, même en magnétisme. Alors, comment peut-on se former en magnétisme? C'est une grande question, on y reviendra plus tard parce qu'on a tous du magnétisme, mais après je pense que c'est notre chemin de vie ou pas que d'aller vers là. Donc j'avais l'impression de remplir, de réguler à travers la sophrologie, à travers ces soins énergétiques, mais en fait ce qui me rendrait un peu triste, c'est que les gens me disaient « Ah oui, quand je sors de chez toi, je suis hyper bien ». Mais alors, en fait, l'effet part très vite. Et en sophrologie, notamment, je demandais aux gens de refaire des exercices et très peu le faisaient. Donc au final, je me disais, mais mince, j'essaie de prendre de mon temps, de mon énergie pour leur apporter toutes les clés. Et pourquoi ils ne veulent pas, au final, guérir ou aller mieux? Donc j'ai été, c'est pas que j'étais déçue, mais je me suis dit, bon, c'est pas encore par là. Et à côté de tout ça, j'étais moi-même praticienne de yoga depuis quelques années, avec, comme beaucoup de gens, je pense, un petit syndrome de l'imposteur, de me dire « mais non, jamais moi, je pourrais être à la place du professeur ». Et puis, la vie a fait que j'ai une de mes professeurs de l'époque, qui est extraordinaire, qui m'a dit « Céline, tu es faite pour ça ». Et qui m'a littéralement poussée aux fesses, faut dire ce qui est. Et du coup, j'ai commencé à aller l'assister sur certains cours. Et puis, un jour, elle m'a carrément dit, bah, la semaine prochaine, c'est toi qui donnes le cours. Alors, je lui ai dit, mais c'est pas possible, je ne suis pas formée, je ne suis pas capable. Et en fait, j'ai donné mon premier cours et les élèves ne savaient pas que c'était mon premier cours. Et personne ne s'en est rendu compte. Donc, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, d'oser, de me dire, bon, bah, ok, il faut peut-être que j'aille par là. Et j'ai cherché une formation de yoga, j'ai trouvé une formatrice vraiment extraordinaire. Et du coup, j'ai plongé littéralement dans le yoga. Et en fait, une reconnexion au corps vraiment qui s'est faite. Et je me suis rendu compte qu'à travers le corps, à travers le mouvement, ce qui me plaisait, c'est que les gens, justement, y reprenaient le pouvoir. Ils reprenaient le pouvoir dans le mouvement, sur leur tapis. Et je pense que ma pratique va bien au-delà du postural. J'aime qu'au début de chaque cours, justement, j'explique le pourquoi on va faire ça aujourd'hui, que je donne certaines notions de philosophie, parce que à côté du yoga, c'est ça en fait. Le yoga, c'est pas juste une pratique sur son tapis, c'est vraiment une philosophie de vie. Et quand on plonge dans les textes ancestraux du yoga, quand on plonge dans les Védas, quand on plonge dans les Upanishads, c'est vraiment tellement merveilleux. Alors certains pourraient dire oui, ça relève du mythe. Oui, peut-être tout ce qui arrive comme croyance en Inde relève du mythe, mais au final, on va pas débattre de ça. Mais c'est compliqué de savoir ce qui relève du mythe ou pas dans toutes nos croyances. Il y a des textes indiens comme la Bhagavad Gita, comme les Yoga Sutras, comme le Mahabharata, qui sont vraiment comme des épopées qui nous parlent un peu du monde, et qui vont nous aider en fait sur notre chemin à certaines compréhensions. Quand on lit cette citation, par exemple, de la Bhagavad Gita qui dit « Tout comme un serpent abandonne sa vieille peau, l'être éveillé abandonne ses illusions et renaît à lui-même », ça nous explique en fait cette notion, et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment sidérée et fascinée en même temps dans le yoga. C'est cette alchimie intérieure, il y aurait une sorte de libération. Parce que le yoga est fait pour nous libérer. C'est un art de reconnaître, en fait, toutes nos empreintes invisibles, tous nos blocages, tous nos conditionnements, d'observer notre ego. Et tout ça pour évoluer, grandir et regarder la vie qui passe, toutes nos épreuves sous un autre œil. Dans la tradition indienne, en fait, je pense que tout le monde a entendu ce mot. De karma, de dharma, peut-être de svadharma. C'est même mes enfants qui sont jeunes, même sans avoir ces connaissances, des fois il t'arrive quelque chose et on te dit tiens, ça c'est ton karma. Donc il y a cette notion auquel je crois en fait de réincarnation, d'une âme qui vient voyager dans notre corps, dans ce corps. C'est vraiment, on est un être spirituel qui vient faire une expérience humaine sur cette terre. Et en fait, on arrive déjà dans cette enveloppe corporelle avec déjà un karma. Avec déjà un karma, peut-être de nos vies précédentes, de choses à nettoyer. Et pour moi, c'est un peu comme si on arrivait sur cette terre avec un scénario préécrit pour aller vers notre évolution, pour grandir, pour nettoyer des choses, pour avoir des compréhensions. Et c'est ça qui fait que tout le monde a des vies complètement différentes, même en étant voisins dans la même rue. Et il faut accepter ça, et il faut aussi se rendre compte que pendant que l'on est en train de vivre, on continue à créer du karma. Donc autant tout faire pour qu'il soit le plus positif possible, déjà pour la continuité de cette vie ici, maintenant, et puis peut-être même pour nos prochaines vies, et peut-être même pour les gens qui nous accompagnent, parce qu'au final, on crée aussi du karma dans les gens qui sont autour de nous. Et du coup, il y a cette notion entremêlée, donc le karma c'est personnel et il faut toujours voir les choses dans le point de vue du microcosme et le point de vue du macrocosme. Le microcosme c'est moi, le macrocosme c'est la planète. Tout comme le dharma c'est le macrocosme, c'est la planète, l'évolution de la planète, et le svadharma c'est le microcosme, c'est un mot très à la mode mais qui correspond pas vraiment, qui serait mission de vie. En design humain, on dit la croix d'incarnation. C'est qu'est-ce que je suis venu rayonner sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu apporter? Donc, il y a vraiment ma notion individuelle, dans mon Svadharma, et il y a la notion planétaire dans le Dharma. Le Dharma, c'est l'évolution de la planète. On pourrait parler aujourd'hui de tout ce que les gens font individuellement et qui va avoir une répercussion, par exemple, sur l'écologie ou tout ça. Et ça, c'est le Dharma de la planète. C'est qu'est-ce que tout le monde fait individuellement qui va faire évoluer notre planète ou non dans un sens ou d'un autre. Donc, toutes ces notions, en fait, et ce yoga est devenu vraiment comme une boussole pour moi. Je prends déjà le temps de ressentir aujourd'hui sur mon tapis ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que je suis apte vraiment à bouger comme je veux? Est-ce que c'est fluide? Y a-t-il des choses qui bloquent? Est-ce qu'au contraire, waouh, aujourd'hui, cette séance, elle est géniale, je me sens bien, etc. Il y a cette notion de venir dans l'instant présent, d'être dans le ressenti, et peut-être aussi d'écouter un peu les messages de son corps, d'écouter aussi tout ce qui se passe dans notre tête pendant qu'on pratique. Il y a des jours où c'est plutôt facile de lâcher le ciboulot, et il y a des jours, mais c'est ultra compliqué. C'est vraiment très très compliqué parce que on a peut-être une mauvaise journée, qu'on a l'impression d'être plus négatif ou qu'on a eu des émotions qui nous ont traversées, pas très agréables. Et du coup, cette petite roue là incessante, c'est le petit singe qui saute dans tous les sens. Il va vous dire mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es nul. Mais qu'est-ce que t'es prétentieux? Mais bien sûr que tu vas pas y arriver, etc. Et c'est ces jours-là qu'on n'arrive pas à se dépasser, à se relâcher. Et on sent peut-être tous ces blocages et que c'est pas facile. Et en fait, même si chaque posture, chaque souffle va faire se poser, eh bien, il y a des fins de cours dans notre Shavasana où on est hyper bien et ça y est, on sent qu'on a changé d'état. Et il y a des jours, eh ben, on a l'impression, pendant le Shavasana, soit on se met à pleurer, soit au contraire, bah, les pensées reviennent fois 10 000, toute cette charge mentale, et on n'a pas réussi à la mettre de côté, et il peut y avoir beaucoup, beaucoup de frustration. Et du coup, les élèves venaient me voir régulièrement, on me disait, oh, bah, moi, enfin, viennent me voir, c'est pas venaient, ça continue, et me posent des questions. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup de cours, d'avoir des élèves assez ouverts qui osent venir me parler, justement. Et d'aller plus loin aussi dans mes retraites. Et du coup, ça fait quelques années aussi que, en plus de cette philosophie ancestrale, j'ai cherché en fait tout ce qui était aussi mythique et qui existe depuis très très longtemps pour, on pourrait dire aujourd'hui, parler de développement personnel, mais tout ce qui existe depuis des siècles pour aussi aider l'homme à sa compréhension. Donc ça fait longtemps que j'ai cherché dans l'astrologie, j'ai cherché dans la cabale, le I Ching, c'est des choses que j'avais déjà regardées depuis longtemps. Et en fait, je tournais autour de plein plein de choses, de la numérologie sacrée, plus classique. Je cherchais, là, j'ai fait même l'étude du tarot, parce que pareil, toutes ces images, tous ces mythes, toutes ces métaphores me parlaient beaucoup. Et en fait, à chaque fois, ces outils m'ont fait peur. Souvent, m'ont fait peur de leur révélation. Donc, hop, j'ai arrêté au passage. Et puis, il y a eu en 2020 la maladie de ma sœur. Alors, c'est pas du tout pour m'apitoyer sur mon sort, je vous rassure. Je pense qu'on a quasiment tous perdu, malheureusement, maintenant. Soit dans nos très proches, soit dans nos amis, quelqu'un d'un cancer. Donc, ma sœur est tombée malade. Et en fait, pendant ces 2 années où elle a été malade, je pense qu'elle s'est complètement guérie au final. En tout cas, je pense qu'elle a beaucoup évolué sur son chemin. Elle a regardé sa vie. On a eu des partages extraordinaires. Et au final, à un moment de ma vie, j'ai une publication, hein, c'est très banal, de design humain qui passe sur mon feed Instagram. Et ce schéma, il me dit quelque chose. Il me dit quelque chose, je me dis, mais je l'ai déjà vu, mais je ne sais plus où. Et je regarde dans mes mails, je me dis, je me suis peut-être abonnée à un moment, une newsletter ou autre. Et je retombe sur un mail de ma sœur. C'est ma sœur qui m'avait parlé de ça, vraiment, je pense, 2 mois à peu près avant son décès. Elle m'avait fait faire ma charte, ce graphique. Et elle m'avait écrit et elle m'avait dit, mais c'est incroyable, regarde, toi qui t'intéresses beaucoup aux chakras, qui t'intéresse à l'astrologie, à tout ce qui est énergétique, à la cabale, t'as regardé tout ça. Waouh, j'ai trouvé un truc, ça rassemble tout, je suis sûre que c'est fait pour toi. Et du coup, imaginez l'émotion d'avoir cette impression, d'avoir un signe de l'au-delà, de ma sœur qui me dit, c'est fait pour toi, j'en suis sûre, ça relie tout, vas-y, fonce. Et du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment j'ai cherché ma formation, etc., parce qu'il y a des évidences, il y a des appels, des choses qui se font, et on va par là. Et j'ai plongé littéralement dans le design humain, puis dans les clés génétiques, qui sont vraiment un outil complètement complémentaire. Et en fait, voilà, tous ces outils, et ben juste, ils m'aident. Ils m'aident, et je le relie en effet avec le yoga, parce qu'on a parlé tout à l'heure de karma, de dharma. Il faut également parler de ce qu'on appelle les samskaras, et je voulais évoquer en français les blocages. Qu'est-ce qui fait que je bloque? Et en fait, je ne le comprends pas toujours. Je ne le comprends pas toujours. J'ai du mal moi-même à mettre des mots sur mes conditionnements, sur les conditionnements, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on m'a imposé, peut-être dans mon éducation, c'est ce que la société m'impose, c'est ce auquel je dois ressembler, comment je dois rentrer dans une case. Et au final, le truc, c'est qu'il y a des choses, on rentre dans la case et on en est tout à fait heureux. C'est rassurant et c'est bien, des fois, pour certaines choses, de sentir que c'est cadré, etc. Mais il y a d'autres choses où on se sent très seul, très peu libre et qui nous font du mal. Et du moment où les choses nous font du mal, donc jusqu'à présent, j'ai beaucoup cherché dans les chakras, en fait. Chaque chakra est relié à des notions psychologiques, à des parties aussi de notre corps. Et ça m'a déjà beaucoup, beaucoup aidé sur mon chemin. Et d'un coup, je trouve un outil où on m'explique encore un peu plus loin quelles sont mes ombres, quels sont ces samskaras, quels sont ces blocages. Et je vais vous dire, quand j'ai commencé à faire ces analyses, c'est pas agréable, il y a vraiment des choses qui piquent, qui viennent réveiller mon ego, qui viennent m'éclairer certaines choses. Mais en fait, je ne peux pas aller vers ma lumière si je ne sais pas ce qui amène l'ombre à cette lumière. Donc, il faut se rendre compte que même si c'est pas agréable, si vous voulez évoluer dans votre vie, il faut faire ce travail de se regarder dans le miroir, face à face, et qu'il n'y a que en allant regarder au fond de la terre, en allant creuser sous le tapis, ce que je dis souvent à mes élèves, il y a tous ces petits trucs qu'on met sous le tapis en disant, bon, je le traiterai plus tard parce que là, je suis pas prête. À un moment, ça revient. Donc, autant essayer de le traiter au fur et à mesure en conscience pour aller vers cette évolution, vers cette libération, vers l'homme, il est fait, enfin l'homme, c'est une généralité, hein, l'homme, la femme, nous sommes faits pour être dans la joie, pour venir expérimenter tous les plaisirs de la vie, tous les sens, les relations entre humains, etc. Et on oublie qu'on était tous reliés et ça, c'est important de se souvenir que il y a cette âme qui vient faire ce chemin et que évidemment on vient nettoyer des choses et que c'est pas facile, mais plus on en prend conscience rapidement, plus on vient faire ce shadow work, le mot hyper à la mode qui me plaît pas forcément, mais plus on vient, voilà, se regarder dans le miroir. Moi, c'est vraiment ça l'image, hein. C'est il y a un moment, arrête de te mentir, arrête de dire que c'est de la faute des autres. En fait, l'autre ne va pas changer. Il n'y a que toi qui peux changer ton regard sur l'autre pour te sentir bien. Et je trouve ça hyper intéressant. Je vais vous raconter une petite histoire. Et c'est là que vous allez voir à quel point tout se relie. C'est l'histoire, c'est la légende de Brahma. C'est une petite histoire indienne que j'adore partager avec mes élèves. Parce que je trouve que c'est une histoire vraiment inspirante pour essayer de comprendre qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi les ressources plutôt qu'à l'extérieur. Donc, il y a une vieille légende qui dit qu'en fait, il y a très très longtemps, tous les êtres humains étaient des dieux. Donc, on était sur cette planète et c'était génial, on était tous illuminés, bien, on assumait tous notre chemin, etc. Mais en fait, bah voilà, on restait des êtres humains quand même, demi-humains, demi-dieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a commencé à tous un peu abuser de notre divinité. Et Brahma, du coup, le maître des dieux, bah il s'est dit, on va arrêter là, c'est trop le bordel. On va leur retirer leur pouvoir, puis on va aller le cacher dans un endroit où ça va pas être facile pour eux de le retrouver. Et en fait, il a fait une espèce de grosse réunion et il a rassemblé les dieux principaux pour savoir où est-ce qu'on pouvait cacher ce trésor, où est-ce qu'on pouvait cacher cette divinité. Et alors là, chacun y est allé de sa petite proposition en disant, attends, on va essayer de l'enterrer au fond de la terre. Et Brahma, il dit, bah non, tu vas voir qu'ils vont finir par creuser, ils vont trouver. Donc il y a un autre dieu qui dit, alors attends, on va les cacher dans les profondeurs de l'océan. Et Brahma, pareil, il dit, mais ça suffira pas. Il y a un moment, ils vont trouver le moyen de plonger, et pareil, ils vont finir par le trouver. Donc il y a un autre dieu qui dit, bon, attends, on va les mettre tout en haut d'une montagne très reculée, quasiment inaccessible. Et pareil, Brahma, il dit, ça suffira pas, ils finiront par graver le sommet. Et il n'y a qu'à voir en ce moment tous les gens et la queue qu'il y a pour gravir l'Everest. Ils finiront par le trouver. Et donc, du coup, bah, les dieux, ils sèchent, hein. Ils disent, attends, là, moi, je sais plus quoi te dire, hein. Si les humains trouveront ce trésor n'importe où on le cache, bah, franchement, je sais plus quoi te dire. Et en fait, Brahma, il prend un petit temps de silence, méditatif, roulement de tambour, et il dit, ça y est, j'ai trouvé. Il a une idée complètement lumineuse, et il dit, on va cacher leur pouvoir où? Au plus profond du seul endroit où ils ne penseront jamais à le chercher, le centre même de leur être. On va cacher ça au fond de leur cœur. Et en fait, bah là, d'un coup, tous les dieux, ils applaudissent, c'est merveilleux, etc. Et on dit que depuis ce temps-là, en fait, l'homme, il explore le monde dans tous les sens, il a inventé l'avion, il a inventé les sous-marins, il est allé parcourir chaque tréfonds de montagne, chaque tréfonds d'océan, il cherche, il cherche, il cherche, et il ne trouve pas. Parce qu'il faut aller au cœur de leur essence, en fait, il faut aller se regarder dans le miroir et chercher. Donc, c'est important de se demander chez vous ce que vous cherchez peut-être à l'extérieur. Regardez ce que vous cherchez à l'extérieur, ce qu'il vous manque, et qu'au final, il faudrait peut-être aller regarder à l'intérieur et se demander comment vous pourriez trouver ce trésor caché à l'intérieur de vous, parce qu'on est tous des êtres individuels merveilleux et qu'il faut juste aller peut-être un peu creuser. Donc, si je devais un peu conclure ce premier épisode, j'espère que certaines choses vous semblent plus claires. Je pense que je vais aller de plus en plus, en fait, au fur et à mesure des épisodes, vous expliquer vraiment individuellement, peut-être un peu plus loin, ce que c'est le karma, ce que sont les clés génétiques, ce qu'est le design humain, peut-être des notions vraiment de philosophie, de yoga. Qui peuvent être comme des fils conducteurs pour votre vie. Donc je vous remercie de votre écoute et je terminerai par cette phrase que j'adore, un auteur que j'adore, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Paulo Coelho, qui dit que quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Donc gardez vos rêves, vos illusions, peut-être vous avez l'impression que c'est une illusion pour le moment, mais non. Du moment où vous rêvez, où vous mettez de la joie dans vos projets, dans votre vie, et bien tout s'éclaire. Donc, on va aller chercher ensemble ce trésor au fond de nous, quitte à déblayer à la grosse pelle et à avoir peut-être des moments de doute, de larmes, d'émotions, d'énervement, de colère, tout ça fait partie de l'humain pour notre évolution. Je vous dis à très bientôt.